Bonjour à tous. Nous lisons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, les versets 17 à 26 et 38 à 48. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point, celui qui tuera est passible du jugement. » Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère « Raca », tête creuse paraît-il, mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la Géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier quadrant. Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent », mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui, donne à celui qui te demande, et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent et faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Des extraits du sermon sur la montagne. Le cœur de l'enseignement de Jésus. L'exemple, le modèle que nous sommes appelés à suivre. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. On a encore du chemin à faire. Nous sommes tous sous l'influence du péché, depuis que l'espèce humaine créée par Dieu s'est rebellée contre son Créateur. Mais Dieu, dans sa bonté, est bien déterminé à restaurer sa création. Son Fils Jésus est venu sur terre pour nous expliquer comment vivre au quotidien selon la volonté de Dieu, selon sa loi immuable. Il y a 15 jours, nous avons fêté Pâques. Très belle célébration et un accueil généreux. Merci encore à l'église de Châtelain. Pâques, la résurrection de Jésus qui change tout au-delà du sermon sur la montagne. Avant d'expirer sur la croix, au comble de sa souffrance, Jésus dit « Tout est accompli ». Jean 19, verset 30. Et alors qu'il est ressuscité, Jésus affirme Matthieu 28, verset 18 à 20 « Tout pouvoir m'a été donné sur la terre, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. avec son aide, puisqu'il ajoute « Je suis avec vous tous les jours ». Alors, à quel moment dans notre vie chrétienne allons-nous prendre conscience que Jésus nous demande de mettre en pratique son enseignement ? Malgré l'assurance du salut de nos âmes, par l'œuvre du Christ et sa résurrection, à partir du moment où nous sommes au bénéfice de sa grâce, la nouvelle alliance nous engage à mettre en œuvre une vie qui reflète ce que Jésus a vécu et enseigné, selon ce qui est écrit dans les évangiles. Une alliance est un peu comme un contrat. Tout au long du récit biblique, à différentes époques de l'histoire de l'humanité, Dieu fait alliance. Dieu s'engage. À la fin du déluge, à ne plus détruire le genre humain. Ensuite, Dieu fait alliance avec Abraham, afin que lui et sa descendance deviennent un canal par lequel la bénédiction divine se déverse sur toutes les nations de la terre. La loi donnée au peuple d'Israël dans le désert devient une alliance. Si vous obéissez à ma loi, Exode 19, verset 5, cette alliance est renouvelée avec le roi David et enfin avec la nouvelle alliance en Jésus-Christ. À travers cette nouvelle alliance par le Christ, c'est une extension à tous les humains de la terre de la possibilité de participer au projet de restauration de la création voulu par Dieu. Rien que ça. Aujourd'hui, nous sommes appelés à devenir acteurs et non spectateurs quant à l'avènement du royaume de Dieu pour lequel nous prions et nous avons prié que ton règne vienne. Après cette longue introduction, revenons à notre sujet du jour. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. La CRP, Commission de réflexion pour la paix de notre association d'église, propose un dimanche dans l'année un culte spécialement dédié à réfléchir à notre engagement pour la paix dans le monde actuel. Beaucoup d'églises ont célébré ce culte le 10 mars, mais nous utiliserons des éléments de leur réflexion pour alimenter la nôtre avec un peu de décalage. En tant que chrétiens, nous croyons que les guerres et les pouvoirs commanditaires des guerres ont une fin. Cette confiance nous pousse à prier pour la paix pendant la guerre. Merci Thorin. Cette introduction est de Tade Ndiinyuzwa, ce président actuel de la CRP, lui-même originaire du Rwanda et dont la famille a été victime du conflit entre Hutu et Tutsi il y a une trentaine d'années. Pas facile d'aimer ses ennemis alors qu'on a vécu toutes les atrocités d'une guerre civile cruelle au cours de laquelle l'autre n'est plus considéré comme un être humain, sensible, mais simplement comme un objet à détruire. C'est souvent comme cela que l'on considère son ennemi. C'est le cas aujourd'hui pour les Ukrainiens par rapport aux Russes et réciproquement, ou les Palestiniens par rapport aux Israéliens et réciproquement, avec comme principe que la destruction de l'ennemi ramènera la paix, la guerre et après. Jean 14, verset 27, Jésus dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Le mot « paix » recouvre des significations différentes. La Pax Romana, contemporaine du ministère de Jésus en Palestine, n'est pas du même registre que le « shalom » biblique que Jésus veut nous laisser. La première, la Pax Romana, repose sur la soumission politique, économique, culturelle et religieuse à la domination romaine, alors que la seconde, le shalom, est associée à la justice, à la prospérité et à l'harmonie entre les humains. D'ailleurs, le mot shalom vient du mot hébreu « shlemut » paraît-il, qui signifie « plénitude totale ». La Pax Romana évoque une absence de guerre et un maintien de l'ordre musclé pour défendre les intérêts du pouvoir, alors que le shalom fait écho au royaume de Dieu. Le shalom biblique repose sur la justice et produit elle-même la paix. Psaume 85, verset 11. La justice et la paix s'embrassent. Pas de paix sans justice. Pas de justice sans paix. L'injustice attise le conflit. Le conflit qui est latent amène une situation de guerre, surtout si les États-nations investissent dans la fabrication d'armes plutôt que d'investir dans des politiques de nature à faire baisser les tensions. Lorsque Jésus nous appelle à aimer nos ennemis, il est dans le monde réel. Il aurait pu dire comme une incantation irréaliste, « N'ayez pas d'ennemis, vivez dans un monde de bisounours. » Dans le monde, la réalité liée à la nature humaine incline l'homme, et c'est surtout l'homme, un peu moins la femme pour une fois, à une soumission parfaitement païenne au dieu de la guerre. Le dieu de la guerre, Mars, les Romains de l'époque de Jésus, le vocabulaire, la mise en scène, la communication autour de la guerre et de sa préparation, n'est qu'un culte rendu au dieu Mars, auquel même un grand nombre de chrétiens occidentaux adhèrent. Vous ne pouvez servir deux maîtres, choisir entre Dieu et Mammon, le dieu des richesses de l'argent, choisir entre Dieu et Mars, le dieu de la guerre et de la violence. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. L'enseignement de Jésus est concret. Il tient compte de notre environnement social, économique et politique. Néanmoins, nous sommes amenés à le suivre dans son enseignement pour devenir des acteurs de l'avènement du royaume de Dieu. Nous ne sommes pas appelés à quitter ce monde. Vous êtes dans ce monde, mais nous ne sommes pas appelés à la compromission, à la complaisance, à l'idolâtrie ambiante. Vous n'êtes pas de ce monde. Et Jésus prie dans Jean 17, verset 15, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. » Jésus prie que nous, qui avons été appelés et choisis à être ses disciples, ne succombions pas à l'idolâtrie de Mars. Aimer vos ennemis, c'est lutter au quotidien, dans notre environnement social et politique, pour la justice. C'est lutter contre notre tendance naturelle à haïr ceux qui ne nous ressemblent pas physiquement, culturellement, religieusement, pour nous inciter, nous forcer à aimer, à pardonner, à réconcilier, à partager, à soigner, comme Jésus a montré l'exemple. On va prendre deux, trois exemples dans la vie réelle aussi. Donc un premier texte, donc à nos adversaires les plus farouches, nous déclarons. À votre capacité d'infliger la souffrance, nous opposerons notre capacité d'endurer la souffrance. À votre force physique, nous répondrons par la force de nos âmes. Faites-nous ce que vous voudrez et nous continuerons à vous aimer. Jetez-nous en prison et nous vous aimerons encore. Envoyez à minuit dans nos communautés vos cagoulards, perpétrez la violence et nous laissez à demi-mort. Et nous vous aimerons encore. Mais soyez assurés que nous vous conduirons à l'épuisement par nos capacités à souffrir. Un jour, nous gagnerons la liberté, mais pas pour nous seuls. Nous lancerons à vos cœurs et à vos consciences un tel appel que nous vous aurons gagné en chemin et que notre victoire sera une double victoire. C'est de Martin Luther King dans la lutte pour l'émancipation et l'égalité entre noirs et blancs aux États-Unis. Il n'y a pas si longtemps que ça. Une pensée d'Antoine Louis aussi. Chaque fois que je laisse le feu de la haine et de la revanche s'allumer dans mon cœur, Jésus me dit, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Troisième histoire, au XVIe siècle, l'Église chrétienne d'Europe a été amenée à se réformer. Rapidement, les uns sont devenus les ennemis des autres. Les paroles de Jésus n'étaient plus au centre de la réflexion. L'Église de Rome défendait son pouvoir et les réformateurs se sont vite réfugiés derrière les autorités civiles, municipales ou princières. Seuls, les anabaptistes, à l'origine de la réforme dite radicale, sont revenus aux paroles de Jésus et ont essayé de revenir à un fonctionnement ressemblant à l'Église chrétienne des premiers siècles. Une Église de professants qui essaye de suivre l'enseignement de Jésus. Ils se sont fait beaucoup d'ennemis et en Europe, il a été convenu que si les autorités civiles étaient catholiques, les citoyens seraient catholiques et si les autorités civiles adhéraient à la réforme, l'ensemble des citoyens seraient protestants. Tel prince, telle religion. L'idée anabaptiste pour l'autonomie des communautés et une non-ingérence des autorités civiles dans la vie de l'Église a cheminé à travers l'Europe plutôt vers le nord et l'est, pas trop vers le sud. Beaucoup de récits de cette époque témoignent des arrestations, des tortures et des mises à mort cruelles, noyades, décapitations, brûlées vives. Beaucoup de ces martyrs ont témoigné de leur capacité à aimer leur ennemi, jusque dans la souffrance et la mort. On parlait même à l'époque, et c'est quelque chose qu'on a oublié un petit peu, de baptême de sang. Le baptême, c'est après le baptême d'esprit et le baptême d'eau, qui venait le baptême de sang, qui était quelquefois l'issue d'une vie de suivance de Christ jusqu'à son agonie sur la croix. Il paraît qu'en 1527, il y a eu un rassemblement d'une soixantaine d'anabaptistes, qu'on appelle historiquement le synode des martyrs, et deux ans plus tard, seules deux personnes étaient survivantes à cette réunion. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi, dit Jésus. C'était une béatitude, une promesse qui encourageait leur fidélité à leur foi. Matthieu 5, verset 11. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous persécutent. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Paix au sens Pax Romana ou Shalom. Qu'en est-il de nos jours? Malgré l'actualité médiatique et les tensions géopolitiques, la Pax Romana a fait de grands progrès et c'est probablement un préalable parfaitement nécessaire au Shalom, projet de Dieu pour l'humanité. Il est petit, mais c'est pour les proportions. Voilà un globe terrestre. Je cherche la frontière ukrainienne. Je tombe surtout sur la Grande Russie, qui est vraiment très étendue. Ah voilà, j'ai trouvé la Ukraine. Et ici, sur une bande de 30 km le long de cette frontière, ça chauffe dur. Je cherche un peu plus loin, Israël, la bande de Gaza, ça va être par ici à peu près, pour être trop, mais ouais, c'est là. On voit pas Gaza. On voit la Jordanie, le Liban, Israël, mais on voit pas Gaza. C'est là, c'est tout petit. Ce qui se passe là-bas est scandaleux et tragiquement inhumain. Les conséquences sur les populations civiles, les affrontements, sont inadmissibles. Même des lois qui d'habitude sont invoquées dans les conflits armés ne sont pas respectées. Toujours est-il que les surfaces en guerre ouverte sur ce globe, notre planète, sont vraiment très petites. Il y a beaucoup d'autres points chauds sur la planète, mais c'est plus souvent du grand banditisme qui cherche à prendre le pouvoir. En comparaison avec les guerres napoléoniennes et surtout les deux guerres mondiales du siècle dernier. Guerre mondiale, c'était l'Europe, l'Asie, l'Afrique du Nord, c'était très étendu. Une extension des conflits russo-ukrainiens et israélo-palestiniens n'est pas impossible. Mais dans un sursaut de lucidité, il existe encore des dirigeants politiques de ce monde qui ne discernent aucun intérêt à élargir, à étendre en surface ces atrocités. Merci encore pour ta prière, Florine. Le royaume de Dieu serait-il plus avancé que nous n'avons tendance à le croire? Sommes-nous des artisans de paix? Sommes-nous des ambassadeurs du shalom biblique? Aimez vos ennemis. Être artisan de paix, c'est la fin de la guerre, de toutes les guerres. Au quotidien, cela demande un engagement pour la justice, une prise de conscience que tout être humain est créé à l'image de Dieu, qu'il vive au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, quelle que soit sa culture, sa religion, son statut économique. Quand on défend la justice, on dénonce l'injustice. On dénonce le mal, quels que soient les intérêts en jeu. Il n'y a pas de guerre juste. Il est temps de conclure. Jésus dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. L'Évangile est un garde-fou contre la crainte, un puissant appel à traverser nos peurs. La paix que le Christ donne est d'abord une paix du cœur, une profonde béatitude intérieure. Et cette paix, lui seul peut la donner. Le monde en est bien incapable. Mais cette paix n'est pas destinée à rester confinée dans nos cœurs. Heureux les artisans de paix. Le chrétien n'est pas appelé à demeurer bien au chaud, dans une tour d'ivoire, en communion avec son Seigneur. Il est artisan, ouvrier, bâtisseur de paix au cœur du monde qui ne veut pas de cette paix-là. Que chacun, là où il est, puisse être un ambassadeur du shalom biblique et pas seulement un militant pour ou contre la Pax Romana. Amen.